Le débat du jour, Guillaume Nodin.
Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le débat du jour. 15 000 soldats, des missiles, des bombardiers stratégiques, des drones. C'est une véritable démonstration de force militaire qui s'est déroulée ce matin place Tiananmen pour le 70e anniversaire de la République populaire de Chine. Le régime communiste chinois ne cache pas sa volonté de devenir la première puissance mondiale d'ici à son centenaire en 2049. Sa pression militaire et politique est de plus en plus évidente, notamment en mer de Chine méridionale. La pression économique est également forte avec le projet de nouvelle route de la soie, mais la résistance existe comme à Hong Kong ou dans le conflit commercial avec les États-Unis. L'empire chinois est-il inévitable? C'est la question du jour. Et pour en parler, deux invités sont avec nous en studio. Christophe Destet, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes économiste et directeur adjoint du Centre d'études prospectives et d'information internationale, le CEPI. Et Emmanuel Linco, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur à l'Institut catholique de Paris, spécialiste de l'histoire politique et culturelle de la Chine contemporaine et auteur de Chine, une nouvelle puissance culturelle, soft power et hard power chez MKF Éditions. Le pouvoir est au bout du fusil, disait Mao Tse-tung, le fondateur de la République populaire de Chine en 1949. Cette démonstration de force militaire de ce matin, c'est pour inspirer la crainte à l'extérieur. À l'extérieur, comment vous l'analysez, Emmanuel Linco?
C'est déjà l'affirmation, évidemment, d'une puissance, hein, ça paraît tout à fait évident. Et par rapport à l'histoire universelle, je dirais que c'est une façon de rappeler de fait que la République populaire de Chine est la créature d'une révolution tout à fait inédite dans l'histoire du XXe siècle, dans l'histoire des hommes. Vous avez pour le XXe siècle trois grandes révolutions, la révolution bolchevique 17, la révolution islamique d'Iran 1979, et entre ces deux grands événements, la République populaire de Chine 1949 qui en est issue. Et c'est une révolution paysanne, une révolution qui va porter évidemment au pinacle du pouvoir des dirigeants révolutionnaires, communistes certes, mais qui vont préparer en même temps la plus gigantesque révolution industrielle qui ait connue là aussi l'humanité, avec, on le sait bien, une croissance à deux chiffres depuis au moins 1979, donc 30 ans plus tard, grâce aux réformes initiées par le successeur de Mao Tse-tung, Deng Xiaoping, jusqu'à la crise financière de 2008.
Oui, ces quelques dernières années, c'était un petit peu plus bas, Christophe Destet. Est-ce que la Chine est la première puissance économique du monde? Il y a souvent des débats entre économistes là-dessus. Est-ce que c'est déjà le cas?
Alors, tout dépend du thermomètre que vous prenez. Si vous prenez un thermomètre un petit peu abstrait qui s'appelle la parité de pouvoir d'achat, oui, c'est la plus grande puissance économique mondiale. Si vous prenez un thermomètre qui est plus concret, qui est le dollar, c'est le niveau des États-Unis il y a 15 ans. Donc, c'est pas si vieux que ça.
Oui, ça s'en rapproche, c'est ce que vous êtes en train de nous dire.
Et on est effectivement très proche de la première place. En économie, il faut toujours voir la photo et un peu derrière la solidité des fondements. Donc, c'est une puissance, comme l'interlocuteur précédent l'a dit, qui s'est développé très rapidement. Alors, à partir de 1978, parce qu'avant, parfois, ça a été dramatique, non seulement sur le plan politique, mais aussi sur le plan économique. Ce développement a entraîné quand même un certain nombre de fragilités sur lesquelles il faut s'interroger.
Je reviens sur l'aspect influence et démonstration de force, Emmanuel Linco. La pression en mer de Chine méridionale avec la militarisation d'un certain nombre d'îlots qui inquiètent les voisins et notamment le Vietnam. Il y a des tensions entre Chine et Vietnam à ce propos. C'est une volonté de faire régner l'ordre chinois dans le voisinage immédiat. Il y a une sphère d'influence qui est en train de...
On peut y voir le retour effectivement d'une souveraineté impériale, hein, et c'est vrai que Xi Jinping est un personnage assez hybride justement dans la convocation de cultures politiques assez diverses, à la fois marxiste-léninisme bien sûr, néo-confucéenne et impériale, une volonté de montrer les dents aussi par rapport aux occidentaux ou leurs alliés, en l'occurrence le Vietnam, allié de circonstances des États-Unis et ironie de l'histoire, hein. C'est une façon aussi pour la Chine de sécuriser à terme ses approvisionnements énergétiques en cas de blocus exercé par la marine américaine, en l'occurrence, à la hauteur, pourquoi pas, du détroit de Malacca. Hein. C'est l'un des scénarios innombrables auxquels les chancelleries pensent, évidemment. Et puis, c'est une façon aussi de se ménager une profondeur stratégique dans une région qu'elle revendique de nouveau comme sienne. Et ça, c'est tout à fait intéressant, cette forme de révisionnisme historique, de tradition historique réinventée, mise en avant par les autorités chinoises, au mépris évidemment du droit international. C'est-à-dire que malgré un certain nombre de contentieux qui semblaient a priori avoir été réglés devant le tribunal de La Haye, eh bien, il y a toujours de fait un contentieux, bien sûr, entre la Chine et les Philippines, en l'espèce, mais aussi, comme vous l'avez rappelé, entre la Chine et le Vietnam, à la hauteur de ces îles contestées par les uns et par les autres, que sont les Paracels et les Spratleys.
Christophe Destet, comparaison n'est pas raison, mais est-ce que, finalement, la Chine n'est pas en train de réinventer la sphère de coprospérité japonaise qui a eu avant la Deuxième Guerre mondiale?
La sphère de coprospérité japonaise impliquait une présence militaire très forte et très exploitatrice de ces zones. La Chine, dans le cas de la mer de Chine du Sud, on peut se poser la question, mais il n'y a pas d'habitants. Dans les autres zones, et notamment dans toute l'Asie du Sud-Est, il y a une très forte présence et une très forte pression chinoise. Mais la comparaison me paraît un peu abusive, parce que ce ne sont quand même pas les mêmes méthodes.
Alors, je vais tenter une autre comparaison avec vous, Emmanuel Linco. Je suis audacieux ce soir. Est-ce qu'on pourrait comparer cela à la doctrine Monroe américaine, c'est-à-dire avoir le contrôle sur ce qui se passe en Amérique latine, et là, en l'occurrence, en Asie du Sud-Est? Est-ce que, d'ailleurs, c'est pas un message de ce point de vue-là?
Alors, ne jamais oublier, évidemment, que, et cela reste extrêmement prégnant dans l'imaginaire politique de la Chine, et précisément en référence à la mythologie impériale, l'Asie du Sud-Est en particulier, est un agrégat d'États considérés sur le temps long par la Chine et son empire comme étant des États vassaux par rapport à la suzeraineté chinoise. Donc en échange, vous avez des populations tributaires qui reconnaissent de fait la suzeraineté chinoise, qui se doit d'assurer la sécurité militaire, évidemment, de ces pays. D'où d'ailleurs, et c'est quelque chose qui nous paraît lointain, mais en même temps qui nous est familier d'un point de vue de notre histoire politique et coloniale, d'où des guerres à répétition entre la France et l'Empire de Chine dans la seconde moitié du 19e siècle. Parce que quand les Français se sont intéressés de près au nord du Vietnam, évidemment, les Chinois, eu égard justement à ce qui faisait jurisprudence, sont intervenus. En même temps, par rapport à ce que vous disiez à l'instant sur cette sphère de coprospérité asiatique, effectivement, qui est entachée idéologiquement, on le sait, et qui nous renvoie à la période des années 30 d'un Japon triomphant, eh bien, je vais vous donner non pas raison, mais je vais abonder un peu dans votre sens, parce que il est toujours intéressant de faire des comparaisons, en effet. La Chine, à certains égards, peut faire penser effectivement au Japon de l'entre-deux-guerres, c'est-à-dire un pays pris à la gorge, qui évolue dans un environnement stratégique qui lui est profondément hostile, mais que la Chine a également très largement contribué à rendre hostile aussi.
Alors, pour quitter l'aspect un peu stratégique et repartir sur l'économie, le but des nouvelles routes de la soie, Christophe Destet, est-ce que c'est justement élargir sa sphère d'influence, s'assurer des relais dans le monde entier, c'est ça le...
Alors,
le but.
En parlant des nouvelles routes de la soie, vous ne quittez pas vraiment le chapitre stratégique.
Parce qu'il y a les deux, oui, effectivement.
Il y a très clairement dans ce projet une volonté d'influence et de présence. Alors, je dis projet, c'est un peu un abus de langage parce que, en fait, c'est un cadre un peu fourre-tout qui inclut de très très nombreux projets. Qui initialement était basé sur le financement et la construction d'infrastructures, mais aujourd'hui est vraiment multifacette et multirégional, y compris d'ailleurs en Amérique latine ou en Europe, dans des zones où la route de la soie n'était plus vraiment constituée historiquement. Mais c'est très clairement un moyen que les Chinois ont trouvé, en particulier grâce à l'énorme accumulation de dollars, pour parler vite, à laquelle ils ont procédé dans les années 2000-2010, pour développer leur présence économique et leur influence politique.
L'économie, la prospérité, est-ce que on peut dire que c'est ce qui permet au régime communiste chinois de justifier le contrôle social et politique, Emmanuel Inco? Est-ce que c'est un peu, vous aurez ce que vous voudrez, mais à condition de lâcher un petit peu les rênes. Est-ce que c'est le message implicite qui est transmis au peuple chinois?
Les deux vont de pair, et quels que soient d'ailleurs les pays, c'est vrai aussi pour la France, une politique étrangère est souvent subordonnée à des considérations de politique intérieure, dans les faits. Et donc, cette économie chinoise, on le sait, change depuis plusieurs années de paradigme économique, et a, par nécessité, besoin justement de se projeter à l'étranger. C'est en cela que réside le fantastique défi, effectivement, des nouvelles routes de la soie, c'est-à-dire des projets d'infrastructures diverses, extrêmement importants et multirégionaux, bien sûr. C'est peut-être aussi, paradoxalement, cette démonstration de puissance, comme on l'a vu ce matin sur les images qui nous ont été envoyées depuis la place Tiananmen, c'est peut-être le signe, paradoxalement, aussi d'une faiblesse, évidemment, parce que on le sait.
Ça veut dire quand on a besoin de montrer comme ça, ça veut dire qu'on n'est pas très sûr.
A priori, et il y a une récurrence d'ailleurs, et de ce point de vue-là, historiquement, la France n'échappe pas non plus à cette réalité, toute proportion gardée, plus une politique extérieure est forte, plus elle révèle justement des difficultés en interne. Mmh. Et ces difficultés, mon collègue l'a rappelé à l'instant, sont innombrables. Et effectivement, l'imposition de ce crédit social, donc de l'exercice d'une dictature par des moyens qui sont ceux de la technostructure, savoir donc le recours systématique à l'intelligence artificielle pour surveiller le flux des populations et le contrôle par la même, évidemment, des territoires, et pas seulement au Xinjiang, dans l'ensemble du pays, et peut-être l'aveu effectivement d'une faiblesse.
La prospérité chinoise est-elle mise en danger par le conflit commercial avec les États-Unis, Christophe Destey?
La prospérité chinoise, elle s'est d'abord appuyée dans les années 80-90 sur la démographie chinoise. Et sur la constitution très rapide d'un stock de capital sous forme d'usines, enrichi par des investissements étrangers, qui ont entraîné une très forte croissance. Aujourd'hui, la Chine est à la recherche de relais de croissance. Elle cherche à moins reposer sur les exportations et à davantage reposer sur sa demande intérieure, ou alors, comme dans le cas des routes de la soie, sur les exportations qui sont financées par elles-mêmes. La prospérité chinoise est donc à un tournant, comme vous l'avez noté, la croissance ralentit.
On est à 6,2% pour cette année, hein, estimé à peu près.
Oui, alors il y a beaucoup de controverses au niveau de la croissance. Peut-être qu'on peut dire même 5, je ne sais pas.
Peut-être en dessous de 6, effectivement.
Mais c'est vrai que dans le futur, le gâteau, la croissance relative du gâteau va diminuer. En même temps, ce gâteau, comme je l'ai souligné tout à l'heure, est devenu très gros. Et donc, il faut pas oublier cela.
L'inflation menace-t-elle le pouvoir d'achat des Chinois? Parce que je voudrais évoquer quelque chose qu'on évoque assez peu, ailleurs qu'à RFI, en tout cas, parce que nous, on en a parlé. Cette fameuse crise du porc. La fièvre porcine qui a touché la moitié des élevages chinois, la consommation chinoise de porc, c'est la moitié de la consommation mondiale, et la viande de porc est donc de plus en plus rare, de plus en plus chère, les autres viandes deviennent de plus en plus chères, au fur et à mesure que les consommateurs chinois se tournent vers elles. Est-ce que ça, il y a un danger social là-dedans, Emmanuel Linco?
Ah oui, c'est évident. C'est-à-dire que les problèmes liés à l'agroalimentaire, la pollution de l'environnement, on le sait bien, c'est chrysogène. Et le gouvernement chinois, très tôt, a compris cela, évidemment. C'est-à-dire que les revendications ne sont pas politiques stricto sensu, celles qui émanent de la population. C'est « je veux un air suffisamment clean » pour mes enfants et moi-même, et je veux manger justement ma côtelette de porc sans risque d'être empoisonné. C'est véritablement cela le problème. Et c'est assez intéressant et symptomatique, en fait, d'un pays qui a encore des comportements, pour aller vite, de pays pauvres, de pays du tiers-monde, et en même temps de pays riches, bien sûr. Et de ce point de vue-là aussi, la Chine dénoue et déjoue toutes les catégories et les préjugés que l'on pouvait avoir. Il y a une chose peut-être d'ailleurs qu'il faudra retenir de ce 70e anniversaire, ça j'insiste beaucoup là-dessus, c'est que la Chine a totalement démystifié ce préjugé tenace, néolibéral et en particulier américain, selon lequel une société ne pouvait se développer sur le plan économique qu'à partir du moment où elle était démocratisée. Eh ben non. On voit bien que la Chine a réussi d'une manière quand même extraordinaire, même si elle a été aidée entre autres par le FMI du fait même de son intégration au sein de l'OMC à partir de 2001, elle a réussi quand même à sortir plus de 750 millions de personnes d'une pauvreté absolue. C'était un pays misérable. Il faut bien comprendre d'où l'on vient.
Mmh. Vous avez un commentaire à ajouter là-dessus, Christophe Destin?
Alors, sur l'inflation, ça peut être un problème sur les denrées alimentaires. C'est pas un problème du tout macroéconomique. Il n'y a pas de risque de crise inflationniste. En revanche, il y a un risque sans doute maîtrisable de crise financière, puisque la dette chinoise a explosé depuis une décennie.
La dette privée notamment.
La dette publique. Alors la frontière entre le privé et le public est toujours très floue en Chine.
Très difficile à établir,
Mais c'est vrai que c'est une dette essentiellement privée, notamment liée à l'immobilier, mais pas seulement.
En fait, un autre anniversaire cette année, c'est celui de la chute du mur de Berlin et ensuite de l'Empire soviétique. Quelles leçons le Parti communiste chinois et Xi Jinping ont-ils retenu de cette affaire? Est-ce que c'est une chose à laquelle ils pensent?
Ah bah bien sûr, oui, c'est une obsession permanente et ça remonte même à plus loin dans l'histoire du monde communiste et du ressenti des communistes, dirigeants communistes chinois par rapport au bloc de l'Est, comme on disait. D'abord la crise hongroise de 1956 et puis ensuite Solidarność en Pologne. Là, les dirigeants chinois ont vraiment pris peur en se disant si on ne se réforme pas, mais autrement, ce que fit Gorbatchev pour l'ex-Union soviétique, nous allons mourir. C'est aussi simple que ça. Bon. Et donc, clairement, Xi Jinping ne sera pas le Gorbatchev chinois. C'est-à-dire, pour paraphraser De Gaulle, n'est-ce pas, la réforme, oui, la chienlit, certainement pas. Ouais, la preuve par Tiananmen, bien sûr.
Oui, c'est l'idée de Deng Xiaoping, en fait, Christophe Destet, pardon. C'est que... Alors, il fallait réformer pour éviter de disparaître.
L'idée de Deng Xiaoping, c'était on traverse la rivière en sentant chaque pierre pour voir si le chemin était solide.
Merci beaucoup Christophe Destet. Merci à vous également Emmanuel Linco d'avoir participé à cette émission qui est déjà en train de se terminer. Merci à toute l'équipe du débat du jour. Florence Ponce à la coordination, Simon Carteret à la documentation et à la réalisation aujourd'hui, Fabrice Violet. Vous pouvez nous retrouver, nous réécouter, nous podcaster sur RFI.fr et sur nos applications mobiles comme RFI Pure Radio, rubrique émission. Vous pouvez aussi participer au débat du jour sur les réseaux sociaux. Le prochain débat, c'est demain, même heure, même endroit. Bonjour chez vous.